Donc aujourd'hui, on va finir notre étude des deux épîtres aux Thessaloniciens. D'ailleurs, c'est le dernier cours de l'école du dimanche. Et puis aujourd'hui, on va étudier notre dernier chapitre, chapitre 3 dans votre Bible, la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, c'est-à-dire le dernier chapitre. Puis on va passer au travers de ce chapitre-là. Comment ça a commencé, là, cette église-là de Thessaloniciens? Vous vous rappelez un peu? Moi, j'ai beaucoup les images, là, ça reste dans la tête, puis ça nous aide un peu à nous rappeler. Mais, voyez, ils sont partis d'ici, là, d'Antioche, de Jérusalem même, je pense. Deuxième voyage de Paul, 15, 36 à 18. C'est ça, ils sont partis, chapitre 15, à peu près l'an 49, puis ça a duré à peu près 3 ans, le deuxième voyage. Il part avec Paul et Silas, ou Sylvain. Pourquoi vous pensez qu'il n'a pas continué avec Barnabas? Il y a eu la chicane, puis Jean-Marc est resté avec Paul. Jean-Marc est resté avec Barnabas, mais Silas est venu. On parle même de que Silas était un prophète, là. Était nommé comme un prophète dans Actes. Et puis il part de Silas, et il part d'Antioche, puis il parcourt tout ça là, au nord. Puis on voit ici, là, mes frères et sœurs, si vous voyez ici, il y a Lystre là. Il trouve là Timothée. C'est là que Timothée joint l'équipe avec Paul et Silas, ici, Lystre, et Derbe. Puis après, ils continuent ici, mais ils veulent aller ici, là, en Asie. Paul, il dit, je veux aller en Asie pour visiter les églises, mais le Saint-Esprit l'empêche. Il dit, non, tu ne vas pas ici. Donc, il monte jusqu'à là-bas, il veut aller dans la Bithynie et Mysie, comme vous lisez dans Acte. Puis encore là, Saint-Esprit s'oppose, il dit, non. Et là, il va à Troas, il y a la vision de qui, là? Le Macédonien. Le Macédonien, il dit, venez à notre secours, il dit. Mais il rêve, il y a une vision. Puis là, il monte jusqu'à Philippe. Et là, on voit qu'il fonde l'église à Philippe. Vous vous rappelez, Philippe, c'est Lydie, je pensais, la vendeuse qui vendait de la pourpre. Et puis on voit après, quelques jours après, qu'il est en train d'encore évangéliser. Et puis il y a quelqu'un qui l'achale un peu, quelqu'un qui avait un esprit de python, de divination. Puis Paul... Il était un peu fatigué de ça, puis enlève cet esprit-là. Et les Juifs sont fâchés à cause de ça, parce que c'était leur gain. Donc, à ce moment-là, il est rejeté de Philippe. Et la foule, il dit, s'éleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher, ça c'est 16, 22, les vêtements ordonnèrent de les battre des berges. Ça c'est Paul et Silas. Après les avoir roués de coups, ils le jetèrent en prison et ils recommandèrent au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ça, c'est le geôlier. Donc, ça, c'est qui, ça? Ça, c'est le Macédonien là, qui avait rêvé. Puis, qu'est-ce qui arrive après? Le geôlier s'est converti. Il y a un tremblement de terre en prison. Là. Paul et Silas sont en train de chanter des hymnes. Ils sont en prison. Et puis ce Macédonien, ce geôlier s'est converti, et toute sa famille même. Et après, ils sont obligés à faire sortir Paul et Silas de là, parce qu'ils sont persécutés. Et dans le chapitre 17, on commence, si vous avez dans vos Bibles, 17 chapitre 7, verset 1, acte 17, pardon, chapitre 1, on est en train de voir un peu le début de cette église-là, des Thessaloniques, comment elle est, dans quelles circonstances aussi, vous voyez, et même les circonstances en ce qui concerne l'apôtre Paul même. Il a été battu des verges, et puis il est persécuté, la tribulation, des problèmes, mais l'apôtre Paul continue encore avec son travail d'évangéliser. Et on voit dans chapitre 7, ils passèrent par Amphipolis, et Apollonie, et arrivèrent où ça? À Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon la coutume, c'est-à-dire Paul avait l'habitude d'entrer dans les synagogues, et pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait, il exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter entre les morts. Donc il prêche l'Évangile avec les Thessaloniciens. Et Jésus que vous que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude des Grecs craignant Dieu, et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais les Juifs, jaloux encore, prirent avec eux quelques hommes de rien, c'est-à-dire quelques hommes méchants, et parmi la populace, et provoquèrent des attroupements, ainsi que du tumulte dans la ville. Et ils se portèrent à la maison de Jason, et cherchèrent Paul, ça a l'air que Paul et Silas se logeaient là, pour les amener devant le peuple. Ils ne le trouvèrent pas, alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats. Donc ces frères-là, déjà étaient éprouvés, hein? Ils étaient persécutés, ils les ont mis en prison, les magistrats, en criant. Ceux qui ont bouleversé le monde entier, waouh, ils parlent du monde entier, donc ils commencent à être très connus, l'apôtre Paul et la prédication de l'Évangile, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre le décret de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. En moins, ils savaient qu'ils prêchaient Jésus. Là. Et ces paroles troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir des nuits Paul et Silas pour Bérée. Et là, vous continuez, vous savez la suite. Mais vous voyez dans quelles circonstances Paul a passé quelques temps à Thessalonique, puis a fondé l'Église. Il a dû partir à cause de quoi? De cette persécution, ces Juifs. Il y a des chrétiens qui sont restés là, dans cette Église-là, après le passage de Paul. Puis on voit que ces chrétiens-là ont grandi dans leur foi. Ils ont vu l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul. Il a peut-être vécu quelques mois parmi eux. Mais la situation était difficile. Donc après, on voit que Paul descend à Corinthe. Et c'est là qu'il reste quelque temps, à peu près un an et demi. Et c'est de là, supposément, il écrit ces deux épîtres-là de Thessaloniciens dans les années 50 environ. Et on dit que c'était le premier écrit du Nouveau Testament même, parce qu'on sait que les évangiles ont été écrits à peu près les années 60. Donc on a entre nos mains les deux premiers écrits du Nouveau Testament. Et ce qu'on a vu aussi, mes frères et sœurs, c'est beaucoup, en ce qui concerne à ces nouveaux chrétiens, l'apôtre Paul enseigne, et enseigne beaucoup surtout quoi? Sur l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, il enseigne beaucoup de ce qu'on appelle l'eschatologie, les temps de la fin. Il enseigne encore beaucoup de choses, mais entre autres, c'est l'espoir qu'un jour Jésus retournera. Mais c'est dans ces circonstances que cette église voit le jour, cette petite église de Thessalonique voit le jour entre juifs et païens aussi. Et on voit que plusieurs païens se sont convertis à Jésus-Christ. Donc prions pour ce dernier chapitre. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci pour, Seigneur, on voit ta main, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Tu permets, Seigneur, que cette église puisse avoir le jour, puisse voir le jour, Seigneur. Merci parce que dans ton plan, Seigneur éternel, tu as permis que ces églises-là soient fondées par l'apôtre Paul. Et à cause de ça aussi, nous avons entre nos mains ces lettres que lui-même a envoyées à ces églises-là. Et ils sont devenus la parole de Dieu, sa parole, Seigneur. Ils sont devenus et ils ont fait partie du Nouveau Testament, Seigneur. Merci pour cet héritage que tu nous as laissé. Merci parce que ce matin, plus que 2000 ans, à peu près 2000 ans après, là, on est en train d'encore voir ces enseignements-là, Seigneur. Merci encore. Je te prie que tu puisses nous bénir dans ce dernier cours en ce qui concerne les épîtres de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, on va voir aujourd'hui le chapitre 3. Juste trois chapitres pour cette épître-là. Du chapitre, du verset 1 à verset 18, je veux quand même ouvrir 2 Thessaloniciens. Chapitre 3. Quelqu'un qui pourrait lire le chapitre de 1 à 18, s'il vous plaît. Il y a plusieurs choses qu'on va voir ce matin.
Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous persévérera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans l'appel, nous avons été nuit et jour à l'œuvre et pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous en avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour nous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disions, par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
Merci, ma sœur. Qu'est-ce que vous voyez dans ce dernier chapitre, une petite emphase sur quoi? Là, une recommandation.
Pas d'assurance chômage.
Est-ce que ça veut dire vraiment ça? Mais c'est ça, mais oui, c'est vrai, on est béni ici d'avoir un assurance emploi, chômage. Ça peut arriver, là. Mais Paul est en train de dire ceux qui sont peut-être habitués à ne pas faire ça. Et pourquoi donc cette problématique-là, maintenant, en ce qui concerne le travail, est-ce qu'il y avait, on ne sait pas, on ne nous donne pas les raisons pourquoi ces gens-là, ils ne travaillent pas, mais d'après ce qu'on lit aussi, c'est concernant peut-être la venue du Seigneur. Il y a peut-être des chrétiens qui ont dit, oh, ben le Seigneur vient, donc
on va l'attendre,
puis... Laissons le travail, puis ça se peut qu'il y a des gens qui ne travaillaient pas du tout. Ils ont dit, bon, pour être spirituel, ils ont dit, bon, on ne travaille pas. Ou soit aussi qu'ils travaillaient moins. Ils ont laissé quelques occupations, puis travaillaient moins, puis en attendant le retour du Seigneur. Mais peut-être entre eux, ici, il y en a qui profitaient, puis ils disaient, ben, si eux ne travaillent pas, je ne travaille pas du tout, donc j'en profite. Donc ça se peut qu'il y avait des gens comme ça. On ne sait pas exactement les raisons, mais tout porte à croire que c'est vraiment au niveau eschatologique, c'est-à-dire en vue de l'arrivée du Seigneur, il disait donc, bon, écoutez, à quoi sert, là, on va attendre le Seigneur, il arrive bientôt, là. Donc, il arrêtait de travailler, partiellement ou complètement même. Oui, ma sœur, Anne.
Le problème, c'était pas juste ça, c'est qu'en plus de pas travailler, il allait quêter à manger chez les autres.
Oui, ça, on le voit, mais ça entraîne d'autres choses, hein. Le fait qu'il ne travaille pas, ça entraîne d'autres choses. Il vit d'autres frères et sœurs.
C'est pas conséquent, là. Si toi, tu ne travailles pas bien à manger, puis parce que tu penses qu'il faut attendre le Seigneur, ne va pas manger le pain des autres.
Oui, il devine la charge d'autres aussi, en charge d'autres. Il y a des problèmes. Donc, en fait, quelques problèmes, peut-être pas tous, là, mais il y a quand même des problèmes. Et on le voit que le ton monte. On a vu ça dans 1 Thessaloniciens. Qu'il y a quand même des recommandations à ça. Ça commence, je pense, mais à cause de la deuxième épître, le ton monte un peu plus. On va le voir du verset 6 au verset 12 environ. Et, oui, au verset 12, on va voir que le ton monte un peu et l'exhortation de Paul, de l'apôtre Paul, devient très solennelle, surtout en ce qui concerne ce désordre-là. Pourquoi je dis solennel? Parce que je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, c'est une bonne exhortation, hein? Donc on dirait qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là. Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, on va voir un peu la demande des prières. Il y a une demande des prières de l'apôtre Paul, on l'a vu au début, du verset 1 à 2. Il y a aussi des encouragements du chapitre 3, verset 3 à 5. Quelques recommandations. Et maintenant, ce qu'on a vu, c'est au niveau du travail. 6 à 15, et les salutations et des vœux du 16 à 18. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va passer au travers ça. Et ce chapitre commence par une demande de prière, dans trois domaines, en fait. Si on peut voir, si vous lisez, vous avez votre Bible dans le verset 1 à 2. Et si vous lisez ça, lisez au reste, frères. C'est vraiment la conclusion de tout ce qui a été dit auparavant. OK? Au reste, frères, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Priez pour nous. Encore là, on voit souvent que l'apôtre Paul, humblement, il demande quoi? Il demande qu'il prie pour eux, pour qui? Oui, il prie pour... Il est en train d'écrire, lui, la lettre, personnellement, mais il inclut aussi qui? Ses compagnons. C'est qui? Principalement, Timothée, Silas ou Sylvain, et Timothée. Mais il y en avait d'autres. Hein? Il n'y a pas juste ces trois-là. Là. Je pense qu'il y en avait d'autres encore. Je pense, quand vous lisez l'Épître aux Romains, là, vers la fin, il y a toute une liste de noms là que Paul salue et aussi des gens qui l'accompagnent aussi. Donc on voit que c'est pas juste ces trois-là, mais principalement et en ce qui concerne ces lettres-là, ils sont inclus parce que, comme on l'a vu ici, Timothée, Silas et Paul ont été au début de cette église-là quand l'église a été fondée. J'imagine qu'ils ont été aussi persécutés les trois en même temps. Donc pourquoi ils prient? Pourquoi il demande la prière, l'apôtre Paul, afin que la parole du Seigneur se répand. Afin que la parole du Seigneur se répand. Il désire que la parole du Seigneur se répand. Littéralement, le mot là qui est utilisé là, c'est courir, que la parole de Dieu court. Ok. Une illustration imagée de l'Évangile, de courir peut-être de lieu en lieu, que cette parole soit sans obstacle et peut-être Paul pense, l'apôtre Paul pense à ces psaumes 147, 15, quelqu'un qui pourrait sauter vite dans, au psaume 147, 15 et pouvoir le lire. J'aimerais savoir, qui a la semeur, mettons? Je pense que c'est Sébastien qui a la semeur. Vas-y mon frère, 147, 15.
À la terre, il envoie ses ordres et sans délai court sa parole.
Ah, et sans délai, court sa parole. Il envoie ses ordres à la terre. Donc, c'est une expression, en fait, que l'apôtre Paul, quand il demande...
Le Seigneur, c'était écrit sa parole court.
Oui.
En rapidité.
Oui, c'est ça. Puis, la colombe, on lit, il envoie sa promesse sur la terre. Sa promesse, ça comprend vraiment sa parole, tout ce qui comprend sa parole. Et sa parole court avec rapidité. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul est en train de demander à ses frères-là. Afin que la parole du Seigneur se répand, qu'elle court avec leur ministère. Okay? Parce qu'il s'est trouvé maintenant où ça? À Corinthe. Et puis on verra après qu'il va encore faire un troisième voyage. Donc l'apôtre Paul prie pour, et demande une prière pour ça. Et surtout à Corinthe, les choses n'étaient pas faciles non plus. Donc il priait, il demandait cette prière-là. Encore un autre aspect de cette prière, attendez, afin qu'elle soit glorifiée comme elle est chez vous, que la parole soit glorifiée comme elle est chez vous. On peut voir aussi dans 1 Thessaloniciens, pardon, concernant que la parole se répand, on l'a lu déjà dans 1 Thessaloniciens 8, car la parole du Seigneur a retenti, quand on a lu dans la première épître, a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin de parler. Donc, on voit que la parole aussi, quand les Thessaloniciens sont convertis, la parole a retenti partout, il dit. Et peut-être on peut voir aussi dans Acte 13 ces deux aspects-là, ces deux aspects de cette demande de l'apôtre Paul. Il dit, les païens se réjouissaient en attendant cela. Parce que l'apôtre Paul, quand il a commencé à prêcher à Perge, je pense en Antioche de Pisidie, les Juifs ont refusé d'entendre l'Évangile. Donc, Paul y a dit, maintenant je me tourne vers les païens. Et les païens, il dit, les païens se sont réjouis en attendant cela. Ils glorifient la parole de Dieu, il dit, en tout ce qui était destiné à la vie éternelle. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. C'est ce qu'on lit dans Actes 13, 48. À peu près dans cette idée que la parole soit glorifiée, comme l'apôtre Paul prie aussi. L'apôtre Paul aussi prie, il demande aux prières afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. Car, il dit, tous n'ont pas la foi. Tous ne sont pas chrétiens, donc ils sont entourés des non-chrétiens. Et en commençant par les Juifs même. Et donc, afin que nous soyons délivrés des hommes insensés. On a lu tantôt, hein, qu'est-ce qui s'est passé à Philippe, c'est ça? Les Juifs ont pris des hommes quoi? Des hommes pervers, il y en a qui traduisent ça, des hommes méchants, des hommes de rien, la colombe le traduit, des hommes méchants, et pour qu'ils puissent s'opposer au ministère de Paul. Donc, l'apôtre Paul, il demande de cette prière que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Et sa prière, je pense, la demande de prière, ce n'est pas juste pour lui, c'est pour les apôtres aussi, pour les autres, mais je pense aussi qu'il inclut même les Thessaloniciens, pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Oui, hommes méchants, c'est ce qu'on a vu dans Actes 17:5, quand les Juifs, ils appellent des hommes méchants du peuple, et car tous n'ont pas la foi. Et Paul pense d'abord aux adversaires juifs, ceux qui se sont opposés. Ils n'avaient pas la foi. Et aussi ceux qui refusent le don gratuit de Dieu. Donc, ils ont entraîné même les païens pour s'opposer au ministère de l'apôtre Paul. Donc, il commence par ces demandes de prière. L'apôtre Paul, dans ce chapitre-là. Mais dans les trois prochains versets, c'est-à-dire du verset 3 à 5, Paul encourage les Thessaloniciens à tourner le regard vers le Seigneur. Si vous lisez du verset 3 à 5, le Seigneur revient toujours. Hein, dans ces trois versets-là, le Seigneur est central dans ce que Paul est en train de dire. Il dit de tourner le regard vers le Seigneur en ces mots-là. Il commence en disant « Le Seigneur est fidèle ». Et il les affermira et les gardera du malin. Quand il parle du malin, c'est sûr qu'on parle de qui? De Satan. Il l'a déjà mentionné dans la première épître, en disant qu'il voulait leur rendre visite, mais à cause de Satan, il n'a pas pu se rendre à Thessalonique. Donc on voit, mais Paul rassure ce peuple-là, Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant, le Seigneur est fidèle, il est bon. Et il les affermira et il les gardera du malin. Il vous gardera du malin. Mais encore, il mentionne un autre aspect. Il dit, « Se confie dans le Seigneur, les rendra capables à obéir toutes les recommandations de l'apôtre aussi. » Dans le verset peut-être 4 que vous avez dans vos Bibles. « Se confie, l'apôtre veut dire, le Seigneur travaillera dans leur cœur pour qu'ils réagissent favorablement à cette présente épître, ce qu'il est en train d'écrire. » Nous voyons dans Pierre en 5, on peut voir, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers temps. Donc l'apôtre Paul, il dit que ses confiés dans le Seigneur va donner comme résultat de pouvoir être capable d'obéir à toutes ces recommandations qu'il est en train de faire et qu'il va faire aussi à ses frères-là. Et dernier, seulement le Seigneur dirigera leur cœur vers l'amour et la patience de Dieu. Seulement le Seigneur peut diriger les cœurs vers l'amour et la patience de Christ, il dit. Ou la patience. Est-ce que vous pensez que Jésus a été patient? Oui, je pense qu'on a un bon exemple de notre Seigneur quand il était sur terre, de sa patience. Et surtout envers les pharisiens qui, à chaque fois, ils recevaient des critiques. Ils s'opposaient à son annonce, là. Mais l'apôtre Paul l'a vécu après aussi, hein, même chose que le Seigneur. Mais il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour aussi. Et je pense que Paul est en train de dire aussi ça parce que, de ce qu'il va parler aussi, l'exhortation qu'il va y avoir et la façon comment nous devons réagir envers ces gens-là qui vivent dans le désert, il va falloir beaucoup d'amour de la part de ses frères et sœurs pour pouvoir supporter ces gens-là et même les encourager à laisser ces coutumes-là. Mais ces trois choses que l'apôtre Paul mentionne avant de cette bonne exhortation là, du verset 6 pardon, au verset 12. Et le verset 6 au verset 12 parle plutôt de cette problématique-là. Et le verset 13 à 15 parle de façon générale aussi, mais aussi en parlant de ce qu'il vient de dire, mais de façon générale, tout ce que l'apôtre Paul écrit dans cet épître-là. Donc, on va voir peut-être en bloc du verset 6 au verset 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul, comment il les exhorte. Nous vous recommandons, frères, quand il dit frères et sœurs, c'est tous les frères là, qui sont à la tête de quand on va voir au niveau du travail. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 6 à 12. De quoi? De vous éloigner de tout frère qui vit, quoi? Dans le désordre. Et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Que vit dans le désordre. Qu'est-ce que vous comprenez pour ça? C'est sûr qu'il faudrait voir le contexte un peu, pourquoi l'apôtre Paul mentionne ces mots-là, le désordre. Oui, ma sœur.
Qui vit pas selon la volonté de Dieu.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il le mentionne non selon la tradition ou la façon comment vous avez été enseigné ou comment vous avez reçu de nous. Oui, puis le mot aussi, ça implique un peu l'indiscipline, ne pas être discipliné. Donc, quand il parle de désordre, là. Mais pourquoi il dit de vous éloigner des frères qui vivent dans le désordre? Pourquoi ne pas tout de suite parler pour des frères qui ne travaillent pas? Mais Paul voit ça, en général, toutes ces problématiques comme quelque chose, un désordre, ou quelque chose de... L'indiscipline.
Il ne dit pas pour les païens qui vivent dans le désordre.
Non, il parle aux frères, oui. D'ailleurs, il commence. Nous vous recommandons, frères. Et quand j'ai dit tantôt son encouragement, ou son exhortation plutôt, c'est vraiment... il monte un peu le ton parce qu'il dit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc, cette problématique était quand même forte dans cette église-là. Oui, mon frère.
Verset 11 reprend le mot « désordre ». Il ne mentionne pas juste un désordre, il en mentionne deux. Il dit que quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Au lieu de travailler, ils s'occupent de pécadilles, de futilité.
De futilité, oui. Donc, ça entraîne des choses, le fait que ne pas travailler.
L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices.
Donc, ça peut arriver à ça, mais dans un premier temps, là, je pense que, de façon générale, l'apôtre Paul est en train de parler des gens qui ne travaillent pas. À cause de quoi? Peut-être à cause... Peut-être qu'il pensait faire bien en faisant ça, parce qu'il y avait une bonne raison, en disant, bon, le Seigneur vient. Il était mal enseigné, peut-être, comme on l'a vu la semaine passée, il y avait des gens qui enseignaient des choses qui allaient en contre de ce que l'apôtre Paul enseignait. Et d'ailleurs, il le mentionne dans ce premier temps-là, en disant qu'il vit non selon les traditions que vous avez reçues de nous. Oui, mon frère Sébastien.
Dans ma version, on nous réfère aussi à un verset qui parle de la luxure.
Oui. Dans un proverbe?
Non, on nous réfère à 1 Timothée 2, 9.
Ben, je pense qu'on va le lire tantôt. Oui.
Au verset 1 Timothée 2, 9, qui parle de... Vu que les femmes agissent de même, vous savez, récemment, la discrétion, simplicité, d'un ne se pas faire d'une coiffure, rechercher d'or, de fer ou de toilette somptueuse, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent. Mais on voit aussi, peut-être aussi des fois qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir hérité, peut-être, c'est ce que j'imagine, donc, d'avoir beaucoup d'argent, ils ne travaillaient plus et je ne sais pas, peut-être, non.
Je ne sais pas pourquoi il fait ses liens à ça, mais en passant à ça, là, c'est un extrême, hein, vraiment, le fait de, à cause du Seigneur, ils disent, bon, on ne travaille pas, donc la vie est belle, on attend le Seigneur, puis le Seigneur vient, puis laissons travailler, là, arrêtons de travailler. Ça, c'est un extrême. Oui, Mauricio. D'ailleurs, c'est que l'apôtre Paul dit que ne pas travailler, c'est un désordre. C'est un désordre. Mais un autre extrême, ça serait quoi, là, de nos jours? Des fois, nous allons à l'extrême. Hein. Oui, nous attendons. Oui, nous travaillons beaucoup. Et même, on fait beaucoup, beaucoup. Mais malheureusement, nous oublions que le Seigneur retourne. Le Seigneur vient. On s'en va vers l'autre extrême. Eux, ils attendaient le Seigneur. Donc, ils disaient, bon, on va laisser travailler. Mais l'autre extrême est aussi mauvais, dans le sens qu'on oublie. C'est le matérialisme, oui. Puis on est, ici, dans notre pays, dans notre société, on est aussi porté à ça. Quoique aussi, il y a des frères, peut-être, qui ne travaillent pas. Et puis, il faut les exhorter selon ce que la Bible nous dit. Mais, voyons les mots qu'il utilise, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les ordres ou qui ne travaille pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous êtes en chômage, on va... vous êtes au chômage. Mais, vous éloigner, c'est quand même fort comme mot, hein? Mais... En fait, le mot qu'il veut dire, c'est vraiment plutôt l'idée de dissocier de cette pratique-là, de se démarquer, éviter d'être entraîné dans un comportement semblable. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit de s'éloigner pour ne pas être apporté pour ces mauvais exemples-là aussi. Oui, mon frère.
Pour mentionner que quelqu'un qui est sur le chômage, c'est quelqu'un que son travail, c'est se chercher un travail.
Voilà.
C'est quelqu'un qui est sous chômage. Si quelqu'un est sous chômage et qui reste à la maison et qui regarde la télévision toute la journée, là, lui ne travaille pas parce qu'il ne fait pas ce que l'assurance chômage lui demande de faire, soit se chercher
un travail. Oui, chercher un travail. Oui. Ouais. Donc, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition, mais aussi, il dit, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, il dit. Lorsque nous étions chez vous, c'est-à-dire l'apôtre Paul, il dit, lorsque nous étions là-bas, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça a l'air, c'était aussi quelque chose déjà de connu, comme un genre de proverbe qui existait dans le temps aussi, et il disait que, bon, ben, celui qui ne travaille pas, et qui ne mange pas. Donc, ce désordre-là est vraiment lié à des gens qui ne travaillent pas. Parce qu'au début, c'est nommé le mot désordre. Mais là, l'apôtre Paul est plus spécifique ici en disant que c'est qu'ils ne travaillent pas. C'est réfère à des gens qui ne travaillent pas. Il ne veut pas travailler, pardon. Il ne veut pas travailler, merci ma soeur. Il ne veut pas travailler. Il vit dans le désordre. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 4, 11, vous exhortons, dit, à mettre votre honneur et à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous l'avons déjà recommandé, dit un Thessalonicien. Proverbe 16, 26, il dit, « La faim oblige le travailleur à se donner de la peine. Son appétit lui pousse. » Donc, la faim oblige le travailleur à se donner de la peine, ou il y en a que d'autres qui traduisent « à travailler ». 1 Timothée 5, 8 dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas aussi, surtout de sa famille, il a renié la foi. Il est pire quoi? Il est même pire qu'un infidèle. Donc, l'apôtre Paul exhorte ça vraiment à pouvoir à travailler. À ne pas vivre dans le désordre. Et puis, c'est quand même une exhortation solennelle qu'il fait à ces Thessaloniciens-là. Et nous invitons, en plus il rajoute, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons en même temps par le Seigneur Jésus-Christ vers la fin. Je pense que c'est le verset 15 qui dit, encore là la mention, vers le Seigneur Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement et à manger de quoi? De leur propre pain. Car nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre, encore une fois, au lieu d'agir, ils s'agitent. Au lieu d'agir, ils s'agitent. Qu'est-ce que tu as dans ta version, Semeur, mon frère? Je pense que c'est le 15.
Non, le
11.
Le 11? C'est le 11.
Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée et ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres.
Ils se mêlent des affaires des autres. En tout cas, encore une fois, il invoque le nom du Seigneur, l'apôtre Paul, pour donner un commandement très sérieux. Donc, les croyants doivent travailler. Ils devraient vivre tranquillement et dit paisiblement, ayant un style de vie dans lequel ils gagnent sa propre subsistance et ne causent pas aucun problème, et que ce soit à leur famille ou à l'Église même. On lit dans Actes 20, 35, dit « En tout, je vous ai montré, c'est-à-dire l'exemple de l'apôtre Paul, qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide, pas juste pour nous aussi en aide aux faibles. » Et c'est rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner que recevoir. » Donc, Éphésiens 4, 28, il dit aussi « Que celui qui dérobé, ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine ou qu'il travaille, en travaillant honnêtement, de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Non seulement la parole nous exhorte à travailler pour nos besoins, mais aussi pour aider les autres, pour pouvoir partager ce que nous avons avec les autres. Et ce mot-là, au lieu d'agir, il s'agite aussi, c'est un peu étrange comme expression, mais en lisant quelques commentaires, moi je ne lis pas le grec, c'est-à-dire je ne connais pas beaucoup le grec là, mais j'ai lu quelques commentaires, mais ces deux mots sont ça a l'air que c'est, ça rime en tout cas, qu'il utilise quand il dit d'agir, il s'agite, ces deux mots qui riment, donc il y a une connotation dans le grec qui en joue des mots là-dessus, qui fait l'apôtre Paul au moyen de quelque chose rajouté à la fin du mot là. Et certains, on peut le traduire comme ça, certains ne s'occupent pas de leurs propres affaires, mais par contre beaucoup trop d'affaires des autres. C'est comme un jeu des mots qu'utilise l'apôtre Paul. Ils occupent des affaires de tout le monde, sauf de leurs. Donc, c'est un peu ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire dans ce verset-là. Mais le problème, l'exhortation est qu'ils travaillent paisiblement et à manger de leur propre pain. C'est bon, c'est bon devant Dieu, c'est le fait de travailler. Ah, d'ailleurs, j'ai déjà entendu à un moment donné quelqu'un qui disait, bon, le châtiment à l'homme a été le travail. Donc, qu'est-ce que c'est la punition du péché, là? Il était couché sur le gazon, puis il était en train de nommer des noms. Il y a un travailleur qui veut parler en arrière, là. Joe. Mais le travail, c'était aussi un effort, quand même. Quand l'Éternel a dit dans deux, on va voir ce que... mais donc, quelle est la différence entre, si on voit Genèse 2, 14, 15, mettons, là. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est la job, ça, faire ça, non? Donc, il donne ça à l'homme. Mais si vous voyez dans 13-17, il dit, 13-17, ça c'est après la chute, ça, le chapitre 3, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est bon écouter la voix de nos femmes, hein, mais juste dans ces circonstances-là, c'est à cause du péché, là, de votre femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, ce que Joe a dit, tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Donc, c'est à cause de ça. La terre a été maudite, comme on dit. Et maintenant, le travail est pénible.
On ne parle pas de peine, alors.
Oui, c'est ça.
Ça dépend, peut-être, si tu es dans un bureau.
Mais il est encore pénible, à cause du péché aussi. Notre travail.
Dans un bureau, c'est les clients qui
nos relations avec les autres aussi, c'est devenu pénible. Et c'est vrai qu'on ne fait pas l'agriculture, nous, mais c'est pénible aussi le travail à cause du péché. Donc, oui, le travail, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et je pense qu'à la venue du Seigneur, tout change. Et nous devons voir, même si c'est pénible, voir comme une bénédiction le fait que Dieu nous donne un travail. Et puis on peut travailler, je pense. Mais avant ça, qui a travaillé la terre? Il a mis de quoi, là? Comment on appelle ça, là? Du fumier, là, que ça sent très bon, des fois, sur la 40, à côté de la 40. Puis, mais il faut travailler la terre, il faut travailler fort, là. Non, on est l'hiver, mon frère. Mais oui, c'est vrai, l'été, ça sent fort. Mais c'est ça, il faut travailler la terre. Donc, il faut, pour pouvoir avoir des belles fraises. Les meilleures fraises, en passant, c'est les fraises du Québec, hein. Et l'apôtre Paul, il dit, nous avons voulu donner à nous-mêmes un modèle, il dit, à imiter. Verset 6 à 12, là, il dit, nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Vous savez comment il nous faut imiter, il dit, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, il dit, c'est-à-dire en travaillant fort. Et ça, on le voit aussi, surtout en Corinthe, qu'il rencontre qui, là? Aquila, c'est Priscille. Puis il travaille en faisant des quoi? Des tentes. Donc il travaille fort, l'apôtre Paul. Et puis il dit, nous avons été un modèle à imiter, il dit. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, il dit l'apôtre Paul. Et même dans la labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour. N'être charge à aucun de vous. C'est quand même un bon exemple que l'apôtre Paul a donné. Puis malheureusement, peut-être il y a des Thessaloniciens qui n'ont pas suivi. Par contre, on voit aussi que dans la première épître, l'apôtre parle beaucoup de l'amour. Et l'amour que l'apôtre Paul avait envers eux, c'est eux, ils ont imité ça. Là, parce qu'il dit, à cause de votre amour, là, on n'a même pas besoin de parler. Donc ils ont suivi aussi les conseils. Mais dans ce qui concerne le travail, il y en a qui se sont un peu détournés des enseignements. Et dans 2 Thessaloniciens, on peut lire aussi, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Il parle même dans la première épître, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être charge à aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu, il dit, à cause de l'évangile en fait. Et dans Actes 20, 34, il parle aussi, l'apôtre Paul, il dit, vous savez vous-même que ses mains ont pourvu aux besoins et à ceux de mes compagnons. Nous nous fatiguons, il dit dans Corinthiens, à travailler de notre propre main. Nous travaillons, c'est-à-dire nous travaillons durement pour gagner notre pain. Donc je pense que l'apôtre Paul était aussi un bon exemple en travaillant. Là, qui, en même temps, il prêchait l'évangile et en même temps, il travaillait fort pour ne pas être à charge des personnes. Donc on voit déjà les bons exemples de l'apôtre Paul envers ces Thessaloniciens. On voit après, du verset 13 à 15, des recommandations générales, dernière recommandation. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire quoi? Ne vous lassez pas de faire le bien. OK? Ne vous lassez pas de faire le bien. Il dit, dans Galates, il dit, nous ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers qui? Envers les frères en la foi. Donc, il les exhorte avant de finir cette épître-là. Il dit, n'arrêtez pas de faire le bien, hein, en commençant par vous. Si quelqu'un obéit, ça c'est une bonne recommandation, là, il dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, qu'est-ce qu'il dit? Prenez note. Un crayon, puis prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il ait de la honte. On parle un peu ici là, des premiers écrits là, en ce qui concerne la discipline ecclésiastique ou la discipline divine, mettons, la discipline à l'Église. Là, parce que après, on va apprendre par Matthieu 18 et aussi ce que nous pratiquons aussi en ce qui concerne la discipline et le Seigneur même a enseigné. Mais l'apôtre Paul, il dit ici, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, et pas seulement ce qui concerne le travail, hein, Je pense qu'il parle aussi de tous ces enseignements, même dans la première épître-là. Quelles sont ces exhortations de l'apôtre Paul dans la première épître, vous vous rappelez? Il fait beaucoup, il nous exhorte beaucoup à la sainteté, je pense, hein, à la sainteté. Donc, il dit, et si quelqu'un obéit même, prenez-les en note. Et c'est fort, n'ayez aucune relation avec lui. C'est-à-dire, ne pratiquons pas ce qu'ils font. Les avertir, il dit, pour qu'ils éprouvent de la honte aussi. Mais, il mentionne aussi, ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme quoi? Comme un frère, avec amour, en l'exhortant avec amour, en lui parlant de laisser peut-être ses mauvaises coutumes. Et dans ce qui concerne les Thessaloniciens, c'est le travail, en les exhortant à travailler, et comme il dit, de leurs propres mains. Ça, c'est les recommandations que l'apôtre Paul fait du verset 13 à 15. Les dernières, en fait, et il conclut la lettre avec une bénédiction, avec des bénédictions et salutations, du verset 16 à verset 18. Que le Seigneur de la paix, c'est-à-dire que le Seigneur est source de la paix, nous donne lui-même la paix, en tout temps, et de toute manière, et que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main, à moi, Paul, c'est ma signature dans toutes mes lettres, voilà mon écriture. On a nommé ces versets une conclusion paisible dans un moment mouvementé de cette église thessalonique. Paul prie pour les saints de Thessalonique qui étaient dans la souffrance et qu'ils puissent connaître en tout temps et toute manière la paix de la part du Seigneur, de la paix des dieux. Le chrétien ne dépend de rien dans ce monde en ce qui concerne la paix. Ça dépend du Seigneur, la paix qui vient du Seigneur. Elle se base entièrement sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. La paix qu'on peut avoir, nous comme chrétiens. Et surtout, le monde ne peut pas nous offrir cette paix-là. Et je vous offre la paix, dit notre Seigneur Jésus, comme le monde ne peut pas vous offrir cette paix. Mais nous ne devons pas, nous devons nous approprier dans toutes les circonstances de notre vie. Quelqu'un a dit, la paix n'est pas la cessation de la persécution ou des épreuves, mais c'est la tranquillité du cœur qui vient quoi? De la foi en Dieu. Et qui est indépendant des circonstances. Je pense que c'est une bonne description de ce qui concerne la paix qui vient de Dieu, malgré les circonstances. On peut être en paix malgré tous ces problèmes-là, parce qu'on peut se confier à Jésus-Christ qu'il va nous donner la paix. C'est lui, et l'apôtre Paul commence par, c'est lui la source de toute paix. L'apôtre Paul aussi veut que ses lecteurs reconnaissent son écriture, l'authenticité de cette lettre, en fait. Là. Et c'est rare que l'apôtre Paul utilise vraiment ces mots. Les salutations viennent de ma main, il dit, de ma propre main. C'est ma signature dans toutes mes lettres. Voilà mon écriture. Il veut vraiment que les gens puissent savoir comme quoi cette lettre-là a été écrite par lui-même. Autrefois, peut-être, il y avait quelqu'un qui écrivait à sa place, mais c'est lui qui dictait peut-être la lettre. Mais dans ces cas-là, il dit, cette salutation, ces exhortations viennent de moi-même et de ma lettre. Et là, on voit que ça change. Hein? C'est plus maintenant Paul, Silas et Timothée, il dit lui-même qu'il puisse écouter et puisse lire. C'est ce qu'il est en train de dire. Il finit dans le verset 18. Comme il a commencé, en fait, et même dans 1 Thessaloniciens, on peut lire qu'il a commencé que la grâce et la paix soient avec eux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Est-ce comme ça qu'il finit cette épître-là, ces deux épîtres, en fait. Il n'y en a pas eu un troisième qu'on sache, il y a juste eu deux les Épîtres aux Thessaloniciens. On voit dans son troisième voyage que l'apôtre Paul a fait, supposément peut-être est allé voir encore les Thessaloniciens dans son troisième voyage, parce qu'il dit qu'il a traversé la Macédoine et l'Achaïe, mais dans Actes, il n'est pas mentionné comme quoi il est retourné. Sûrement, il a retourné encore à Thessalonique pendant son troisième voyage. Et peut-être il a pu faire encore recommander des choses. Il a eu la joie de pouvoir le rencontrer, comme il mentionne aussi dans la première épître, qu'il avait à cœur de pouvoir encore les visiter. Mes frères et sœurs, je pense que nous avons vu plusieurs aspects, mais ce que j'ai remarqué beaucoup dans ces deux épîtres, c'est vraiment l'apôtre Paul, surtout dans la première, à la fin de chaque chapitre, il fait mention de l'avènement du Seigneur. Et nous, comme chrétiens, que nous soyons ici, dans cette terre-là, en attendant le retour de notre Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens, il dit, soit que nous restons pour l'avènement du Seigneur, on va être élevé avec lui pour être avec le Seigneur toujours, pour toujours. Ou soit que nous mourrons et nous allons ressusciter quand il va revenir. Et les morts en Christ ressusciteront quoi? En premier. Et après nous qui sommes restés, nous serons élevés avec lui dans les cieux pour que nous soyons quoi? Toujours avec le Seigneur. Donc gardons peut-être ça en tête, et que le Seigneur revient, comme il dit, Maranatha, il revient. Et puis en attendant le retour du Seigneur, soyons quoi? Comme il dit la première épître, soyons sobres et attendant le Seigneur, et veillons, agissons aussi, et dans la sanctification, parce qu'il dit le désir de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Donc j'espère que nous avons été encouragés avec ces deux épîtres-là en ce qui concerne l'espérance d'un chrétien. Comme il dit quelqu'un, nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un, si jamais il vient de notre vivant. Mais nous attendons notre Seigneur qui retourne, et puis un jour on sera avec lui pour l'éternité. Amen. Donc, pour ces fois, merci de votre attention tous ces dimanches-là. Et je vous prie, j'aimerais qu'on puisse prier. Voilà, c'est fini.